Le 8 janvier 2023, des élèves de terminale du lycée Beauregard à Villefranche-de-Rouergue sont allés rendre visite à Pierre Prévost, à Léonard, en Aveyron, sur son lieu de vie et de travail. Dans le cadre de la semaine artistique proposée par le lycée, durant laquelle les élèves ont créé des cartes postales sonores pour faire découvrir leur lycée de manière sensible et décalée. On écoute la visite et l'interview de Pierre Prévost.
C'est ce qu'on appelle un univers. C'est-à-dire que moi, c'est à la fois des bâtiments que j'ai construits, des sculptures. Là, vous allez voir l'ensemble normalement des œuvres d'art exposées dans des galeries. C'est-à-dire que les pièces sont sélectionnées, elles sont montrées dans des endroits sécurisés, propres. Ici, vous avez accès au foutoir, parce que la création, elle naît du foutoir. La création, c'est pas propre. Hein. C'est après que c'est propre. Quand c'est présenté au public, quand c'est à vendre, à ce moment-là, c'est recadré, c'est propre. Voilà. Donc là, vous avez la chance de voir comment c'est l'atelier d'un artiste. C'est rare qu'on ait l'occasion de voir ça. Hein. Bon, vous allez voir Soulage, c'est au musée Soulage, c'est pas dans son atelier. Hein. Parce qu'il n'y a pas de mousselière les chaussures. Hein. Bon, on va rentrer voir. Alors là. C'est mon dépôt de ferraille là, qui est derrière tout ça. C'est toutes les ferrailles que je stocke, dont j'ai besoin pour faire des sculptures. Parce que comme je travaille qu'avec des objets qui sont déjà fabriqués, donc je suis obligé d'en avoir le plus grand nombre possible, de façon à ce qu'il soit facile de varier ce que je fais. Hein. Parce que bon, si j'ai deux tire-bouchons et puis une fourchette, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Alors je fais des vide-greniers. J'achète des objets, parce que toutes les sculptures sont faites avec des objets du quotidien, vous avez remarqué?
Oui.
Vous les avez eus en main, ces objets-là, quoi. Bon. Donc, moi, les gens s'en débarrassent. Moi, j'y récupère dans le vide-grenier, la ferraille, etc. Et c'est après que je vais les transformer. Et à ce moment-là, je n'ai pas à fabriquer les volumes. C'est ça qui m'intéresse. Normalement, en tant que sculpteur, je devrais fabriquer les volumes. Taper dans du bois, taper dans de la pierre, sortir les formes. Hein. Tandis que là, les formes existent. Donc j'ai qu'à les assembler, j'ai tous les volumes nécessaires pour pouvoir faire des sculptures. J'ai des ovales pour faire des têtes, j'ai des tuyaux pour faire des bras, des cylindres, etc. J'ai tout ce qu'il faut. Bon, on continue.
Voilà. Regarde, même le chien, il fait de la récup.
Ah, c'est la maison qui est en photo.
Ouais.
Ah, vous l'avez vu en photo?
Oui.
Ah, vous avez été sur le site?
Oui.
Ah, d'accord. Ah oui, voilà.
Bon.
Bon alors, comme je suis, moi, du côté de la création, c'est-à-dire que c'est pour ça que je fabrique tout à ma façon. C'est moi qui choisis les volumes qui me conviennent, qui me plaisent, etc. Si j'avais fait construire une maison par l'entrepreneur ou un architecte, je me serais servi des idées des autres. Et moi, ça ne m'intéresse pas de me servir des idées des autres. Ce qui m'intéresse, c'est de servir de mes idées à moi, qui soient sur mesure pour moi. Alors au début, là, oui, en pierre, là, c'était un mazette, c'est-à-dire une petite cabane de vigne. Ça n'a jamais été une maison d'habitation. Mais ici, il y avait des vignes partout. Parce que c'est un terrain calcaire, très caillouteux, il y avait des vignes. Ensuite, il y a eu le phylloxéra, les vignes ont disparu, etc. C'est pas cultivable, tout ça, ou difficilement cultivable. Donc, c'était laissé à l'abandon. Et la petite cabane, elle était en ruine. Il n'y avait plus de toiture, il n'y avait plus rien. Mais moi, j'avais envie d'habiter dans une cabane. Alors, ça m'a donné l'idée, le paysage m'a plu, ça m'a donné l'idée de transformer ça en maison. Donc, j'ai refait une charpente avec des troncs d'arbres. Et puis, petit à petit, je me suis agrandi à droite, à gauche, etc. Parce qu'il faut dire une chose, c'est que il existe ce qu'on appelle un permis de construire. Comme il existe un permis de conduire. Hein? Bon. C'est pour ça qu'on conduit tous de la même façon, d'ailleurs. Et que les maisons, d'ailleurs, se ressemblent toutes. Moi, je trouve ça dommage que les maisons se ressemblent toutes. Hein. Si tout le monde construisait sa maison à sa façon, on aurait une variété de styles qui serait plus intéressante que quand c'est toujours les mêmes qui dessinent les maisons. Voilà. Bon. Moi, ici, je suis dans une zone de liberté. Un périmètre de liberté. C'est-à-dire que comme je suis un artiste, c'est un peu normal qu'on me laisse une place libre. Hein, voilà. Enfin, je pense que c'est ce que les gens ont compris, les gens de la mairie ont compris. Donc petit à petit, je me suis agrandi Et comme on ne me disait rien, c'est-à-dire que c'est comme si j'avais l'autorisation, j'ai construit après, à droite, à gauche, des ateliers, voilà. Maintenant, je suis totalement libre de construire tout ce que je veux. Et je pourrais défendre ça en tant que maison d'artiste. Ça existe. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, le palais idéal du facteur Cheval, il aurait dû être démoli. Et c'est Malraux, à l'époque des ministres de la Culture, qui l'a classé. Autrement, il n'y avait pas de permis de construire pour ça, évidemment. Hein, voilà. Donc, le gouvernement, ils ont compris que quand même, il y avait des lieux, même s'ils n'étaient pas autorisés, qu'il fallait qu'il y ait des endroits avec plus de liberté de création. Voilà. Voilà. Alors, j'ai construit cet atelier là en 2000. Et là, j'ai commencé à faire des sculptures. Donc, j'ai commencé à faire des sculptures tardivement. Bon, hein, on n'est pas obligé de commencer tout de suite.
À quel sujet ?
De son métier. De choisir un métier tout de suite.
On n'est pas obligé de choisir.
On peut en changer en cours de route. Alors, voilà. Donc, cet atelier, la charpente de cet atelier, elle est construite avec des troncs d'arbres. Il y a 100 sapins que j'ai coupés, que j'ai écorcés, et j'ai inventé une charpente à partir de ça, c'est-à-dire avec des boulons, pas de tonneau ni de mortaise, mais simplement des boulons. C'est une charpente en perche, en définitive. C'est pas enseigné, ça, dans les livres, parce que c'est une technique de primitif. Les gens qui ont construit avec des bambous, par exemple, c'est attaché avec des ficelles, etc. Bon, c'est pas enseigné, ça. Ce qu'a enseigné, c'est le tonneau, la mortaise, la charpente traditionnelle. Et comme moi, je n'avais pas des arbres assez gros et que j'avais envie de faire avec ce que j'avais sous la main, parce que mon principe, c'est de faire avec ce que j'ai sous la main. Et si vous voulez faire, par exemple, de la musique, soit vous allez acheter un piano, une flûte, etc., soit vous vous dites, je vais faire avec ce que j'ai sous la main. Et qu'est-ce que vous avez sous la main ? Votre voix, d'abord. Vous pouvez chanter, hein, bon. Et ensuite, il y a des casseroles. Tous les objets, quand on tape dessus, ils ont un son, ils ont une note. On peut faire avec ça. On n'est pas obligé que ce soit très compliqué. Et ça vous amène aussi à faire autrement que tous les autres. D'inventer une autre façon de faire. Hein. Si vous n'avez pas envie d'apprendre, vous pouvez apprendre en vous amusant. Hein. Ben je trouve, bon. Voilà. Donc moi, en définitive, ce que je vous montre là, c'est que je fais la démonstration qu'on peut faire avec pas grand-chose. Et moi, je trouve que ça peut être utile, parce que bon, tout le monde n'a pas les moyens, l'argent nécessaire, tout le monde n'a pas non plus l'éducation nécessaire, tout le monde n'a pas la patience nécessaire. Il faut pouvoir faire avec ce qu'on est et avec ce qu'on a. Hein. Alors au début, il n'y avait rien dedans. Alors là, j'ai commencé à faire des sculptures. Et maintenant, il y en a tellement dedans que je suis obligé de travailler dehors. Hein. Bon, vous allez voir, il y en a partout. Je peux tout représenter avec cette technique, c'est-à-dire avec des volumes qui existent déjà. Au début, je ne savais pas, mais je peux faire des bonhommes, des animaux, des insectes, des poissons, absolument tout. Si je décide de faire un oiseau, je vais chercher des formes, je vais trouver des formes qui correspondent à un oiseau, à un bec, quelque chose de pointu, vous voyez. Bon. Une moule à gâteau. Alors, il y en a que vous avez déjà vu dans le chemin, par exemple des girafes, il y en a dans le chemin. Ben, une fois que j'ai fait une girafe, c'est comme nous, pas pareil les girafes les unes par rapport aux autres. On ne fait pas très attention, mais d'abord il y a le girafon, c'est le petit de la girafe. Il y a le mâle girafe, la femelle girafe. Et à partir du moment où moi j'ai trouvé la façon de faire une girafe, après je peux décliner ça. Je peux faire toute la famille. Hein. Et ensuite, je peux les installer dans un endroit où ce sera le domaine des girafes. Pareil pour les chevaux, pareil pour n'importe quoi. Voilà, oui, j'ai une girafe, j'en ai une là-bas, il y en a deux là, qui sont différentes. Donc c'est sans fin.
Vous signez toutes vos sculptures ?
Non, je dessine rien, moi, c'est le volume. disons que quand on dessine au fur et à mesure aussi. Moi, je dessine avec des objets qui existent déjà.
Non, vous signez toutes vos sculptures.
Ah, signer ?
Non, vous signez.
Ah, signer, oui.
Oui, vous faites toutes vos sculptures.
Non. Non, 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 ça ne m'intéresse pas beaucoup de signer, dater, etc. Parce que je ne suis pas dans le milieu de l'art. Si j'étais dans le milieu de l'art et je vendais dans une galerie, c'est obligatoire de signer, c'est obligatoire de mettre la date. Voilà, il y a quand même des principes auxquels il faut obéir, quoi. Bon, moi, je fais de la mise en scène avec mes sculptures, donc elles ne sont pas à vendre. Si quelqu'un veut absolument me les acheter, à ce moment-là, je ne vais pas lui dire non. Je signe, je mets une date. Bon, n'importe quoi d'ailleurs. Hein, bon. C'est pas très important tout ça. Voilà, mais enfin bon, signer, non, signer, c'est une façon de vendre. Ça fait partie de la vente, ça, signer.
Hein?
Bon, voilà.
Mais certaines sont signées, ouais.
Il y en a qui sont signées. C'est vrai. Mais bon, c'est rare. D'abord, c'est toujours pas forcément le feutre.
Et on vous suit.
Oh. Alors là...
Ça sent beau.
Cet espace-là, il est chauffé. Hein.
Ah,
là.
Ça c'est bien.
Mais bon, là, il y a un poil, là. Bon, normalement, comme c'est l'espace chauffé, donc l'espace dans lequel je peux travailler... Mais bon, j'encombre toujours tout, donc à un moment, ça devient compliqué. Alors, en ce moment, je vais vous montrer. En ce moment, je fais des masques avec des bidons. J'avais plein de bidons d'essence, de vieux bidons d'essence, que j'ai coupés d'une façon différente, et ce qui fait que c'est très léger. À partir de là... Je peux faire des découpes complètement différentes. Il faut que je me soucie quand même qu'on puisse regarder à travers. Voilà. Et à ce moment-là, c'est moi qui fais la sculpture. Vous comprenez ? Il faut avoir des gestes qui correspondent à ce que je veux faire dire au masque, à ce qu'il exprime, quoi. Hein ? Bon, ça peut être comme ça, ça peut être voilà. Hein ? Alors, ce qui m'intéresse aussi, c'est de varier. Vous voyez ? Voilà. Bon. Ça, c'est ce que je fais en ce moment, parce que pour moi, c'est une piste nouvelle. À partir de simplement un masque, je vais essayer de chercher toutes les possibilités, on peut dire formelles, enfin, voilà... Exprimer, faire des masques, vous voyez, il y en a un peu partout, là, bon, qui sont originales, qu'on n'a jamais vues. Parce qu'il faut, moi, je trouve qu'il faut surprendre. Si je vous fais un masque qu'on voit tout le temps, bon, ça ne va pas vous étonner. Hein, bon. Et cette technique-là, de faire des masques comme ça, ça permet une originalité dans la forme. Parce qu'il y a beaucoup de hasard. Vous voyez là, par exemple, mais ça, ben ça c'est le même, exactement le même bidon que les autres. Hein. C'est pour dire à quel point on peut varier. Et moi, ce qui m'intéresse, ce qui me fait plaisir, c'est quand j'ai une trouvaille, pas quand j'ai fait un beau travail, pas quand je vais bien le vendre, mais quand ça va, quand je vais réussir à m'étonner. Être étonné, c'est très rare, je vous signale. Certainement la chose la plus rare au monde. Bon, voilà. Bon, je ne sais pas, vous travaillez sur le son en ce moment. Moi, si j'avais à travailler sur le son, je travaillerais de la même façon. Parce que je trouve que c'est une façon de faire qui est extrêmement pratique et qui donne libre cours à l'imagination. Bon, l'imagination, tout le monde en a. Hein. Bon, en cherchant un peu, on peut quand même avoir quelques idées. Hein. Bon. Le son, par exemple, le son, je trouve ça aussi intéressant que la forme ou que la couleur. Hein. À partir du son, on peut faire de la création. comme on peut faire de la création à partir de la couleur ou à partir d'une note pour la musique, etc. quoi. Parce que chaque objet a un son. Il y a des sons mâles. On voit bien, il y a une variété incroyable de sons possibles. Il y a des possibilités. Et si je travaillais avec le son, je travaillais de la même façon qu'avec les objets de récupération. Je ferais avec des sons de récupération.
Intéressant ça. Ça ressemble à ce qu'on veut faire, nous, hein. Un petit projet. On est dans la musique concrète.
On appelle ça la musique concrète, oui, ouais. Effectivement.
Oui, oui, c'est ça, oui, trouver des sons dans le lycée et puis essayer de trouver une musicalité.
Bien sûr. Oui, oui. Mais même dans la musique classique, il y a quand même toujours une part de création qui est possible, parce qu'entre la musique classique et le jazz, il y a quand même des variations. Hein. Bon. Et il y en a d'autres qui sont encore possibles. Hein. On n'a pas tout exploré, heureusement.
Et est-ce que vous avez déjà fait des œuvres à but musical ou autre ?
Non, mais... Là, il y a un film, il y a l'affiche, là. Pour l'instant, il est dans des festivals. Bon, il va certainement sortir en salle ou à la télévision après. Et là, il y a une musique qui était faite par un musicien. Il a fait la musique avec des bruits. On appelle ça, on peut dire ça comme ça, quoi. Pour que ça corresponde à ce que je fais. Non, mais moi je suis toujours partant. On me demanderait de faire du son, je ferais du son, voilà. Voilà, alors. Faites un tour, définitive. Hein. Puis après, on va se mettre dehors, il y aura un peu plus de place. Bon, vous voyez, là, les masques, je vous parlais, donc le travail que je fais en ce moment. Voilà, il y a des variations, là. Bon. Il y en a d'autres. Alors. Ça va se terminer en sculpture. Hein. Eh bien, des fourchettes. Il faut que j'aie quand même pas mal de matériel avec moi. Bon. Alors.
Ouais. Moi, j'ai vu des chevaux, je veux bien faire des
mettre un peu plus de place et puis au soleil peut-être.
Ah oui, au soleil, profitons de cette belle. C'est génial. Il n'y a pas besoin d'avoir un
là. Là, c'est des grandes sculptures que j'ai faites parce que, évidemment, en fonction de la grosseur des casseroles, par exemple, je peux faire de plus en plus grand si je veux. Bon, là, c'est la limite, hein, parce qu'après, c'est bien compliqué pour moi, même d'aller porter, de les transporter.
T'es amené à les déplacer ?
Oui, parce que une fois que j'ai fait mes sculptures, que je fais après, je fais un travail de metteur en scène en définitive. C'est-à-dire que je vais mettre mes sculptures, bon, par exemple à Villeneuve, où je l'ai fait plusieurs fois, dans les rues de Villeneuve, je me promène, et puis je dis tiens là, ce serait pas mal, une sculpture là, j'essaye, laquelle ira le mieux, etc. Et je fais une mise en scène avec toutes mes sculptures. À Parisot, j'avais un belvédère, j'ai mis plein de chevaux, là. Je les mets en scène, quoi. Je fais le spectacle. Je suis payé pour ça. Donc, mon exposition, elle reste quelques mois, comme ça, en plein air, dans un village, quoi. Ensuite, je récupère toutes les sculptures. Et je vais les installer ailleurs. Celles-là, elles ont déjà été déplacées plusieurs fois. Mais ça dépend du paysage, pour ça. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de les mettre dans la nature, comme dans le chemin, par exemple. C'est une façon de les mettre en évidence de cette façon-là, c'est-à-dire dans la nature, à la portée de tout le monde. Enfin, on fait une promenade au milieu de mes sculptures. C'est pas comme exposer dans une galerie. C'est complètement différent.
Comment vous les transportez, vos sculptures ?
Alors, j'ai vous avez vu, un petit camion jaune, j'en ai un petit camion bleu, là. Je les transporte là-dedans. Mais ça se démonte, tout est vissé, j'ai oublié de vous le dire. Tout est fixé avec des vis à plaque au plâtre, c'est-à-dire des vis qui perforent le métal, quoi. Donc, je peux dévisser, je peux démonter, quoi. Bon, une girafe, par exemple, bon, voilà, c'est des tuyaux de poils, je les démonte, et puis ensuite, je vais les remonter sur place, vous voyez. Alors, pour montrer le principe de tout ça, le principe de la création. Ça, c'est une fourchette. C'est fait pour quoi ? C'est fait pour piquer de la viande. Pendant des années, parce que si on compte le nombre d'heures dans lesquelles vous allez avoir cette fourchette dans la main, vous n'avez jamais pensé à vous s'en servir pour faire autre chose. Bon. Moi, tout de suite, vous voyez qu'une fourchette, si je la tords, ce qu'on n'a pas le droit de faire, autrement on prend une baffe. Bon. Voilà. Là, j'ai une patte d'oiseau, moi, tout de suite. Et puis, après, si je continue à ne pas être sérieux, j'ai des griffes. D'accord ? Alors après, j'ai des sourcils, j'ai des moustaches. Enfin, oui, tout est possible à ce moment-là. Mais à ce moment-là, il faut, on peut dire, se libérer. Il faut libérer son esprit de l'ordinaire, de la fonction. Il faut imaginer autre chose que pourquoi c'est fait, quoi. Voilà. Bon. Voilà. Mais tout ça, bon. Et bien après, etc. Je veux dire, avec des cuillères, c'est pareil. Avec des casseroles, c'est pareil. On peut les tordre. On peut faire des trous dedans. Enfin, voilà. Bon. Alors, oui, je me lève par là. Vous voyez, là, ces grandes cultures, là, il en manque pas mal, qu'elles sont encore démontées, qu'elles ne sont pas remontées, etc. Mais le... je travaille aussi beaucoup sur l'expression. C'est très important, l'expression. C'est-à-dire qu'il faut que la sculpture, elle vous regarde. C'est comme nous, entre nous tous, quand on se parle, on se regarde. Et on se regarde d'abord dans les yeux. C'est comme ça que ça se passe. Après, il y a des expressions qui sont faites par la position du corps, etc. De la tête, si on est comme ça, c'est pas pareil que si on est comme ça, etc. Quoi. Bon. Donc moi, je vais travailler à ce qu'elle soit expressive. C'est-à-dire qu'elle vous dise quelque chose. Alors, celles-là, elles sont particulièrement hallucinées. Enfin, moi, je trouve. Bon. Un peu inquiétante, enfin, surtout bon, celle-là, quand je vois, là, je la vois en face, elle me regarde. Même la position des doigts, vous voyez, tout ça, ça compte. Il faut qu'elle devienne vivante. Parce que c'est fait à partir d'objets morts, mais il faut qu'elle soit vivante, comme n'importe quoi. Quand on écrit, pour que ça soit vivant, il faut qu'il y ait un rythme, quelque chose, quoi, qui fasse que ça sonne, quoi. Et là, je me suis amusé à faire des, comment on peut dire, des personnages où je sois beaucoup plus libre dans leur expression que de faire un bonhomme tout con, quoi. Bon. Celui-là, d'abord, il est surdimensionné, donc c'est déjà quelque chose qui est d'étrange. Voilà. Puis, je vous disais, bon, là... Et les cuillères. Ça fait des petits seins. Là. La douche. La douche. Il y a un petit plat là, un petit plat pour faire les œufs sur le plat. Et puis là, il y a une louche en dessous. J'ai laissé le manche de la louche. J'aurais pu le retirer pour faire juste une bouche. Mais justement, ça fait une langue. Et la langue, elle passe par le trou de l'anse du petit plat. Enfin, voilà. Tout ça, c'est une liberté, liberté de faire. Plus la liberté de faire est grande, moins je me soucie de la normalité, plus il y a de place pour l'imagination. Et plus c'est surprenant. Parce qu'autrement, vous faites une tête, bon, les têtes, elles s'entendent toutes à peu près, quoi. Bon. On a tous un nez au milieu de la figure, des oreilles sur le côté. Ça, c'est un poulailler, vous voyez, la pyramide, la rouge. Parce que c'était des poules naines, et les poules naines, elles se perchent en hauteur dans les arbres. Et c'est pour ça que je leur ai fait une espèce de petite tour dans laquelle elles peuvent se percher. Et là, c'est pareil, donc j'ai une forme de poulailler qui n'est pas ordinaire, parce qu'en définitive, elle est sur mesure pour des poules naines. C'est pas un poulailler pour tout le monde. Comme les pavillons dont je vous parlais tout à l'heure.
Donc c'est lui qui l'a fait.
Il est trop serré,
c'est beau.
Et aussi, que je pourrais vous dire, puisque vous commencez les études, hein, faites des choses drôles, ça vous rendra de bonne humeur. Hein. Parce que moi, c'est un bénéfice secondaire que j'ai de cette activité et de la façon dont je le fais, c'est que ça entretient chez moi un sens de l'humour, une joyeuseté, etc., parce que je fais des choses joyeuses. Voilà. Bon, évidemment, les artistes, en général, enfin, beaucoup d'artistes préfèrent faire dans le lugubre, parce que plus c'est lugubre, plus c'est profond, hein, plus c'est sérieux, travailler comme je le fais, ça ne se fait pas dans le milieu de l'art. C'est mal vu, ça. Hein. Les critiques d'art, ils disent que je suis un humoriste.
Les œuvres, tout le long qu'on a vu, elles étaient très amusantes. Elles avaient des façons de faire qui étaient très, très drôles.
Tant que ça ne m'a pas fait sourire ou rire, je continue. J'ai pas réussi. Oui. J'ai réussi. J'estime avoir réussi quand ça m'a fait sourire, au moins.
Tu te fais des blagues à toi-même.
Je fais des blagues, oui, voilà.
Mais c'est vrai que dans les musées, on en voit. On a rarement l'occasion de rigoler dans les musées.
Oui, c'est vrai. Il y en a, heureusement.
Ah, oui. Bon.
Oui, là. Aussi, la façon de présenter les choses. Là, elles sont vissées sur la paroi. Avec des vis dans les fourchettes. Voilà. Là, c'est suspendu dans un cercle, donc ça bouge. Voilà, j'ai différentes façons de les présenter aussi. Ça m'intéresse, la présentation. Bon, celui-là, il s'échappe. Je sais pas pourquoi, mais... Enfin, bon. Allez. Alors, comme je manque de place, je suis tout le temps obligé de construire des abris, au moins pour les protéger un peu de la pluie. Bien que tout ce que je fais, ça a une certaine pérennité, c'est-à-dire que ça peut rester dehors, ça ne va pas pourrir, hein. Et en même temps, bon, la peinture, tout ça, ça s'écaille, ça s'abîme un peu, quoi. Bon, c'est pas grave. Si on veut pas que ça s'abîme, on les met à l'abri, puis voilà. Alors là, ce sont des serres agricoles que j'ai acheté d'occasion. On en trouve beaucoup parce que bon, il y a des paysans qui prennent leur retraite, des fois il y a des tempêtes, bon, donc les... voilà. Donc c'est très vite monté, c'est pas très cher, et je peux mettre à l'abri mes sculptures, voilà. Parce que là, le gros inconvénient de ce que je fais, c'est que j'en ai beaucoup et il faut bien les mettre quelque part. D'ailleurs, si c'était à refaire, je serais écrivain. Hein. Avec une feuille de papier et un crayon, ça prend pas de place. Et ça serait la même chose, toi, ou poète, je sais pas. Mais enfin, voilà. Le même plaisir de faire. Voilà. Vous voyez, des sculptures, là, elles sont démontées. Il y en a partout. Alors, vous pouvez rentrer là-dedans. Là. Hein ? Et puis, il y a une sortie tout au bout. Hein ? Allez-y. Parce que là, bon... se mettre là peut-être pour l'interview.
Super, hein. On est bien là.
Bah oui,
ouais, ça vous va? Alors, on va se mettre en position, mais on va se rapprocher. On va laisser ce chien
tranquille.
Enfin, tranquille, non.
Non, mais tu le laisses avec son tuyau. Laisse-le.
Il n'a qu'une envie, c'est de faire ça.
Parce que moi, j'interviens beaucoup dans les écoles, mais l'école maternelle surtout, l'école primaire, quoi. J'allais dire des enfants de votre âge, mais... des adolescents, disons, j'ai rarement l'occasion, là. C'est pas pareil. Hein.
Et puis vous êtes presque des adultes.
Oui, presque des adultes.
La majorité des accueillants, c'est un peu de 18
ans. Ah oui, donc vous êtes fait pas adultes, peur, pardon. Ils sont pas encore adultes. Et vous êtes de la même école ou pas?
Oui. Oui, on est tous de la même école.
Quelle école?
Le lycée de Beauregard.
Ah, le lycée de Beauregard. Ah oui, je suis intervenu il y a très longtemps au lycée de Beauregard.
J'avais
fait avec des élèves un cheval avec du fil de fer, du grillage et du papier. Papier que de la colle, enfin voilà. Alors, oui.
Alors, qui démarre?
Mais du coup, moi.
Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît?
Me présenter, bon. Ben, je m'appelle Pierre Prévost, j'ai 80 ans, ce qui est pas mal d'ailleurs. Je m'applaudis tous les jours d'être arrivé jusque-là, parce que la moyenne, je crois que je dois être 79, enfin bon, voilà. Bon. Et j'ai pas du tout l'impression d'être vieux, puisque je suis en activité, et peut-être même davantage en activité que quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, comme vous, bon, j'avais bien bouquiné dans le plumard, je ne sais pas, faire des choses comme ça. Là, maintenant, le temps presse pour moi. Bon. Et puis, c'est très excitant ce que je fais, parce que je fais exactement ce que j'ai envie de faire, et je cherche à retrouver sans arrêt le plaisir de faire. Ça ne m'intéresse pas de travailler, de faire des choses répétitives, de travailler pour gagner de l'argent. Je travaille pour me faire plaisir. C'est le gros avantage d'ailleurs de la retraite. C'est un peu long d'attendre, mais on peut peut-être la prendre un peu plus tôt. Il reste quand même les week-ends. Hein, bon. Voilà, donc moi j'ai fait de la sculpture, mais tardivement. J'ai fait de l'artisanat d'art, j'ai fait du travail artistique alimentaire pendant des années, parce que je pensais que c'était indispensable. Bon, je n'avais pas forcément tort. De gagner sa vie, quoi. Hein. Donc, pour gagner sa vie, il faut chercher à gagner sa vie, donc il faut chercher à faire des choses séduisantes, qui plaisent, etc. Donc, à ce moment-là, dès quelque chose plaisait, je répétais cette chose-là. Et quand je suis arrivé ici, le fait d'être complètement dans un endroit isolé, j'étais seul, j'avais pas d'eau, pas d'électricité, etc. J'étais un peu comme sur une île déserte. Là, j'ai décidé de faire la sculpture, mais j'avais déjà une cinquantaine d'années, quoi. Et j'ai commencé avec ce que j'avais sous la main, des vieilles boîtes de conserve, des bouteilles, etc., à faire ce que j'avais appelé des fétiches, des petits bonhommes, quoi. Bon. Et puis petit à petit, évidemment, tout ça s'est développé. J'ai trouvé des pistes, en définitive. J'ai pu faire plus grand, j'ai pu trouver d'autres matériaux pour faire ce que j'avais envie de faire. Et puis je me suis aperçu que je pouvais tout représenter de cette façon. C'est-à-dire des bonhommes, des bonnes femmes, des animaux, des poissons, des oiseaux, etc. Donc, je pouvais, en volume, parce que je me servais d'objets qui étaient déjà en volume, avec ces volumes-là, je pouvais représenter le monde. Je pouvais faire l'arche de Noé. Bon. Là, maintenant, ça fait quand même une trentaine d'années que je fais ça, donc je commence à en avoir énormément, je commence à avoir une grande habitude de faire ça, je commence à être un peu connu, donc c'est beaucoup plus facile pour moi d'exposer. J'arrive à me faire payer pour exposer ce que je fais. J'ai de quoi montrer maintenant, j'ai de quoi dire sur ce que je fais. Tout ça, ça met du temps. Maintenant, je peux dire que j'ai sous la main tout ce qu'il faut, quoi. Non seulement des sculptures, mais aussi je peux expliquer ma démarche, ce qu'elle est. À force de parler, là encore aujourd'hui, en parlant avec vous, je vais apprendre à m'exprimer davantage. Peut-être que je vais trouver une façon de dire les choses plus percutante que d'habitude. Voilà. Donc tout ça, ça reste très intéressant et très vivant. Et comme c'est très vivant, la création d'ailleurs, c'est la création en elle-même, ça va avec la vie, tout ça, quoi. Les chefs d'orchestre sont des vieux bonhommes. Complètement excités, là, avec leurs baillettes. Bon, ils ne sont pas dans les fauteuils roulants. Hein. Chacun sa maison de retraite. Hein. Voilà. Donc, puisque vous êtes jeune et si vous voulez vivre longtemps, je vous conseille de vous amuser. Hein. Voilà.
Depuis quand êtes-vous artiste?
Je pense que je suis artiste depuis toujours. Hein. Quand j'avais votre âge, j'étais artiste déjà, je pense. Hein. Donc j'aimais lire les livres de poésie, j'aimais beaucoup ça. Bon, j'allais voir les expositions, ça m'intéressait tout ça, ça m'intéressait, quoi. Bon, j'avais pas encore les moyens de faire, mais j'avais quand même les moyens de m'intéresser à ça. Donc de me construire d'une certaine façon à travers les expositions que je pouvais voir. Le travail des autres, en définitive, quoi. Mais mon choix était déjà fait, en définitive.
De manière générale, où est-ce que vous travaillez, où est-ce que vous exposez vos œuvres?
Je travaille de préférence et de plus en plus en plein air. D'abord parce que quand on fait de la sculpture comme ça, il faut avoir du recul. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, on recule de deux pas. On regarde si les volumes se marient bien entre eux, si c'est beau, si c'est drôle, si c'est intéressant, etc. Et ensuite, on se rapproche et on continue jusqu'à être satisfait totalement. Donc dehors, il y a énormément de recul possible. Et pour exposer, c'est pareil. C'est-à-dire que je préfère exposer mes sculptures dehors pour qu'elles puissent exister comme on respire, c'est-à-dire en plein air, quoi. Hein. Et puis petit à petit, moi je suis devenu ce qu'on appelle un sculpteur de la ruralité. C'est-à-dire, j'étais à Paris, moi, avant. Bon, à Paris, les œuvres d'art, elles sont dans des galeries, elles sont dans des musées, etc. C'est pas dans la rue, il n'y a pas la place pour tout ça. Mais arrivant ici, moi, je me suis aperçu que j'avais la chance d'avoir une place phénoménale. Mes sculptures, je pouvais les mettre partout. Hein. Et partout, partout, c'est dans la campagne. Et plus je me rapproche d'une ville et plus je rentre dans la ville, plus je vais me retrouver dans un enfermement. Un enfermement d'abord, parce que l'horizon a disparu, on est enfermé dans des immeubles, dans une rue, il y a des trottoirs, on bute sur tout. Là, en plein air, il y a une très grande liberté. Quoi. Bon. Et moi, je profite de cette liberté. Je pense que c'est meilleur pour mon imaginaire d'être en liberté que d'être enfermé. Bon, j'écris aussi, voilà, bon... Donc là, à ce moment-là, quand j'écris, évidemment, j'écris sur un ordinateur, assis sur une chaise à côté du feu. Mais pour faire de la sculpture, je pense qu'il faut de la place. Mais je pense un peu, comme là, vous travaillez sur le son, comme la musique. La musique, si on la met à fond la caisse, dehors, elle peut exister pleinement. Hein, si on est dans sa chambre, avec un voisin au-dessus et en dessous, on baisse le son. Hein, voilà. Bon, et tout ça, ce sont des handicaps. Hein. Si on compose une musique, pour l'entendre, il va falloir que ça déménage, quoi. Hein. Bon. Pour que ça déménage, ben, il faut sortir de la piole, quoi. La chambre.
Hein. Où et comment avez-vous débuté?
Moi, j'ai débuté. Alors, moi, j'ai débuté à Paris, dans des galeries, plutôt dans des quartiers de prestige, enfin Saint-Germain-des-Prés, etc. Je faisais des mobiles, je faisais des jeux d'échecs. Je faisais du mobilier, je faisais des choses extrêmement séduisantes. J'ai été un jeune dandy, bagnole de sport décapotable et... et l'argent facile et tout ça. Bon, mais bon, tout ça c'est un peu fini. Et puis, quand je suis venu ici, évidemment, Les plaisirs sont tout autres, évidemment. Ce n'est pas du tout le même plaisir d'être en ville, jeune, à la mode, à danser le rock, que d'être dans le fond de la campagne, hein, entouré de paysans et en dansant la bourrée.
Qu'est-ce qui vous inspire pour créer vos œuvres ?
Qu'est-ce qui m'inspire ? Ah ! Une bonne question. Ce qui m'inspire, c'est plutôt le plaisir de la créativité. C'est particulier comme plaisir. C'est extrêmement différent de d'autres plaisirs. Par exemple, pour faire la cuisine, pour se nourrir, par exemple, je donne un exemple comme ça. Hein. Et puis, on peut faire de la cuisine pour régaler les autres. C'est pas pareil. Hein. Bon. Moi, je fais de la cuisine pour régaler les autres, en définitive. Mais il faut que ça me plaise à moi-même. Je goûte, en définitive. Hein. Je goûte quand je fais quelque chose. Et si je trouve que c'est bon, ou si je trouve que c'est beau, etc., à ce moment-là, je partage avec d'autres. Hein. Bon. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous se régaler. Hein. Il y en a même qui vont avoir horreur de ça. Hein. Bon, il y en a qui aiment les huîtres, il y en a qui ne les aiment pas. Mais je n'y peux rien. Bon. Bon, mais qu'est-ce que tu me posais comme question déjà ? Ce qui m'inspire, c'est aussi tout ce que j'ai vu, parce que j'étais en Afrique, avant de faire des sculptures ici, j'étais en Afrique et j'étais voir les sculpteurs africains. Alors eux, ils font du vaudou, c'est-à-dire qu'ils font des masques, ils déportent pour danser, et c'est pas à vendre tout ça, hein ? Ils ont un rapport avec les esprits, etc. Et ils sont très sensibles à l'expressivité. Il faut que ce soit très fort, il faut que ça fasse peur, etc. Donc moi, j'ai beaucoup aimé ces sculptures-là, qui n'étaient pas une marchandise. Ici, une sculpture, c'est une marchandise, c'est un truc à vendre. Là-bas, ils s'en servent, quoi. Bon. D'ailleurs, dans les églises, c'est un peu pareil. Hein. Ce n'était pas là pour faire la déco, c'était là pour croire en Dieu, pour nous aider à croire en Dieu. Enfin, voilà, bon. Donc moi, ce qui m'inspire, évidemment, c'est pas ça. Ce qui m'inspire, c'est ni l'argent que je peux gagner avec, ni le succès, je m'en fous, je demande ça. Mais ce que je veux, c'est pouvoir être libre de faire ce que j'ai envie de faire, et aussi libre de les exposer comme j'ai envie de les exposer, et libre de déplaire, libre de plaire et de déplaire, voilà. Bon. Moi, il y a des... Il y a des gens... qui n'aiment pas du tout ce que je fais. Il y a des gens qui se déplaisent énormément. Je les repère, bon, évidemment. Ce sont des gens qui sont du côté de l'ordre, de la propreté, du bienfait, hein, du beau travail. Évidemment, moi, je réponds à aucun de ces critères-là. C'est pas un beau travail, c'est pas propre, tu vois. Alors, et puis c'est fait avec des ordures, tu vois, c'est fait avec des déchets. Donc, un bon militaire bien conservateur, veut dire qu'est-ce qui nous emmerde avec ces ordures en plein air, toi. Mais il va voir que ça, quoi. Donc, on peut dire qu'il m'inspire, ou il m'expire.
où vous récupérez votre matière première pour faire vos sculptures ?
Bonne idée. Eh bien, j'ai la chance, comme vous tous d'ailleurs, d'être travaillé par les ordures, de savoir qu'en faire. Hein. Quand je suis arrivé ici, moi, les ordures, elles étaient en plein air. Bon, ça n'existait pas, la récupération, les déchetteries, etc. Bon. Donc, je pouvais puiser dans les dépôts d'ordures des objets qui m'intéressaient, donc des objets en métal, des objets du quotidien, tout ce que l'on jette. Et, par exemple, je travaille beaucoup avec des selles de vélo, par exemple, ou des guidons de bicyclette, ou des roues de bicyclette. Il y a des milliers de vélos qui sont mis à la poubelle tous les jours. Hein ? Donc, moi, j'ai aucun mal à récupérer des selles, des guidons, des garde-boue, enfin, de tout ça, et des cuillères, et des fourchettes, etc. Il y a une profusion d'objets qui sont jetés à la poubelle parce qu'ils n'ont plus d'utilité. D'utilité habituelle, quoi, tu vois. Mais pour moi, c'est extrêmement important d'avoir sous la main toutes sortes de volumes, toutes sortes de courbes, toutes sortes de matières, quoi. Et à ce moment-là, je trouve ça chez les ferrailleurs, Il y a des gens qui font des vies de maison aussi, qui me mettent des choses de côté. Je fais une liste de ce qui m'intéresse, ils les mettent de côté. Il y a des gens qui m'en font cadeau, qui viennent avec leur voiture, la grand-mère est morte, ils débarrassent la maison, donc ils m'amènent tout ça, quoi, voilà. C'est comme ça que je récupère tout ce dont j'ai besoin. J'ai aucune difficulté. Je fais aussi les vide-greniers. Des fois, il y a des choses que j'aimerais bien retrouver, parce que, bon, sur les petits moules à gâteau, je m'amuse à faire des yeux ou des oreilles avec, et puis après, j'en ai plus. Donc, mais c'est pas grave, parce que ce moment-là, je vais trouver autre chose pour le faire. Donc, c'est plutôt bien de pas non plus avoir toujours sous la main ce dont on a besoin. Mais enfin, en tous les cas, j'ai un énorme stock, un peu caché derrière des palissades, parce que bon... Mais voilà, dedans, j'ai des faux, des fourches, des marteaux, des vélos, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà.
Est-ce qu'il y a un but écologique dans vos créations ?
Non, il y a un résultat, mais ce n'est pas le but. Non, je ne fais pas ça pour sauver la planète. D'ailleurs, je perdrais mon temps. Donc, il n'y a pas de but écologique. Mais, par contre, je peux montrer qu'il y a un détournement possible. Et qui, avant de jeter, il faut peut-être un peu réfléchir de ce qu'on peut faire avec. Bon, moi, je fais des porte-manteaux avec des cuillères, des poignées de porte, bon, des luminaires avec des casseroles. Enfin, voilà, bon, c'est toujours possible, hein, de faire quelque chose avec ce qu'on a sous la main plutôt que de le jeter, quoi. Les paysans faisaient souvent ça, quoi. Quand ils faisaient un clapier pour les lapins. Bon, ils faisaient des charnières avec des bouts de chambre à air, enfin ils débrouillaient avec ce qu'ils avaient sous la main, parce qu'ils n'allaient pas prendre le cheval pour aller chez le quincailler acheter deux charnières, ils se démerdaient, quoi, voilà. D'ailleurs, il y a un musée, pas loin d'ici, au Cusal, je crois, hein, on voit comment les paysans pouvaient bricoler.
Et du coup, vous aviez déjà répondu à ma question si vous aviez des œuvres musicales, c'était non. Oui. Mais vous m'avez dit qu'il y avait déjà des gens qui avaient composé des musiques pour vous.
Oui, oui.
Est-ce que vous saviez où est-ce que c'était et qui les a faites ?
Oui, ce monsieur s'appelle Wagner, mais c'est pas celui dont on connaît. Enfin, il se trouve qu'il porte le même nom, mais non, je le connaissais pas. C'est le cinéaste qui a fait le film qui l'a trouvé. Ensuite, je l'ai rencontré, évidemment, quoi. Bon, et il fait il construit des guitares, par exemple, avec des boîtes de conserve, il bricole des instruments de musique, aussi avec de la récupération.
Pourquoi vous personnifiez vos objets ?
Oui. Oui. Tu veux dire que les objets dont je me sers deviennent des personnages. Et pourquoi les personnages plutôt qu'une sculpture abstraite, je sais pas, moi. Bon, hein, voilà, bon. Parce que je pense que à notre époque, on est dans l'art conceptuel, on est dans l'art contemporain. Moi, je pense que pour toucher tout le monde, il faut que les choses soient figuratives. Je pense que c'est très important que ce soit figuratif, et je pense que l'art abstrait, c'est une mauvaise voie. Je trouve ça, bon, ça peut être intéressant sur le plan formel, quoi. Mais à ce moment-là, en définitive, on travaille pour d'autres artistes, pour montrer à d'autres artistes qui ont le vocabulaire nécessaire pour comprendre de quoi il s'agit, etc. Et la plupart du monde est exclu de ça, quoi. Hein ? Ils n'ont pas la culture nécessaire. Bon, moi, par exemple, il y a le musée Soulages, tout le monde connaît le musée Soulages, c'est une peinture abstraite, bon. Les gens vont s'engouffrer dans ce musée, ce que je comprends très bien, parce que c'est une célébrité, etc. Je ne pense pas qu'ils aient très envie de voir ça chez eux. Je ne pense pas qu'ils aient non plus les moyens de l'acheter. Non, ce n'est pas pour eux, voilà, ça, quand même. Donc, moi, je fais une sculpture qui est populaire, quoi, parce que je trouve que c'est important que le partage puisse se faire, même avec des gens qui ne s'y intéressent pas ou qui n'ont pas l'habitude. Voilà, bon. La peinture abstraite et tout l'art dit contemporain, je pense que c'est pour une certaine classe de la société qui a la culture nécessaire, qui a l'argent nécessaire aussi pour acheter tout ça, quoi. Et on est loin de l'art populaire, très loin de l'art populaire. Moi, j'essaye de faire de l'art populaire, d'autant plus qu'il n'existe pas, quoi, qu'il n'existe plus. Je trouve que le travail d'un artiste, c'est pas de faire le malin et d'être content parce que personne ne comprend rien à ce qu'ils font. Hein.
Du coup, vos œuvres n'ont aucun rapport avec le son, oui, effectivement. Comme vous.
Attends. Réponds-moi à la question.
Oui. Est-ce que vos œuvres ont un rapport avec le son? Oui,
oui, bah c'est... Non, mais je peux répondre à cette question-là, parce qu'il y a une réponse là-dessus. Hein. Parce que tous les objets que j'utilise, ils ont un son. Et même s'ils ne sonnent pas, tu sais quel est leur son, quel est leur bruit. Quand je fais une sculpture, par exemple, avec une selle de vélo, la selle de vélo, c'est un son mat. Quand je mets une parabole de télévision, c'est un son métallique. Et même si on n'a pas conscience de ça, la connaissance que tu as des objets, elle passe aussi par le son, tu vois. Oui. Chaque objet, en définitive, a une mémoire. Et dans notre mémoire, et la mémoire qu'on a des objets, c'est non seulement la forme, c'est à quoi ça sert, c'est le son, c'est le toucher, c'est la couleur. Tout ça participe au fait que tu comprennes de quoi il s'agit, ce que tu as en face de toi. Même si tu n'es pas obligé de le faire sonner pour savoir que ça sonne, tu sais que ça sonne. Il y a une mémoire dans l'objet dont je me sers. Par exemple, je fais des chevaux avec des seaux à charbon. Moi, quand j'étais gamin, quand on se chauffait au charbon, on allait dans la cave et remplissait ce seau. Vous n'avez pas connu. Mais tous les gens de mon âge ont connu ça. Quand je suis en cheval avec deux seaux à charbon, les gens, personne qui regarde le cheval, le souvenir du seau à charbon passe par sa tête. Vous comprenez ?
Est-ce que vous avez des questions supplémentaires ?
Moi, ça m'intéressait de répondre à des questions que je ne me pose jamais. c'est l'occasion de chercher une réponse. Bon, mais c'est intéressant.
Ça, il y a un son isolé, mais la sculpture, elle en a un autre, finalement.
Elle a un mélange de tout ça, parce que quand on la regarde, on ne peut pas mettre de côté ce qu'on connaît de l'objet quand on le reconnaît. Quand tu reconnais un objet, tu reconnais la forme, le son, la couleur, là où il était, etc. Il y a une mémoire de l'objet, quoi. Donc, moi, quand je fais une sculpture, en même temps, elle est faite de mémoire superposée, tu vois. Hein, et c'est pas pareil que si c'était en bronze ou en pierre ou en bois, tu sais, où il n'y aurait pas cette ouverture à la mémoire qui existe dans la sculpture que je fais, quoi.
Parce qu'on les a, tous ces objets, on les a appréhendés au quotidien.
Oui, voilà. Donc il y a une familiarité dans les objets dont est construite la sculpture, ce qui fait que la sculpture vous est familière. Si c'est du bronze, le bronze, ça ne nous est pas familier. Donc tu regardes la sculpture, mais tu regardes que ça, puis tu sais que c'est du bronze. Bon, d'accord. Mais moi, comme c'est fait d'une quantité d'objets qui tous ont eu un usage, on les a eus en main, on les a vus, etc. Bon, tout ça, ça participe à la lecture, quoi. C'est un peu comme une phrase avec des mots. Il y a ce que dit la phrase, et puis il y a les mots en eux-mêmes qui sont dans la phrase. Et chaque mot te renvoie à autre chose. Bon, hein.
Avant qu'on aille, oui. Est-ce que toi, tu as une ou deux questions à nous poser? On peut inverser les rôles.
Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Alors après, les questions que moi je peux me poser, je peux la poser globalement. Là, vous êtes les spectateurs. Bon, et individuellement, vous avez chacun certainement un ressenti différent. Ça vous plaît plus ou moins, ça vous intéresse plus ou moins, etc. Quoi. Bon, donc la question que je peux vous poser, c'est qui est-ce qui s'en fout? Qui est-ce que ça intéresse modérément? Qui sait qui a envie d'en faire autant? Hein, il y a tout, quoi. Bon, voilà. Bon. Voilà, après, bon, moi je sais, oui, vous allez avoir un retour de tout ça, évidemment. D'abord parce que ça vous plaise ou non, vous avez été surpris, ça c'est sûr. Parce que être surpris, c'est extrêmement rare. C'est-à-dire que pour être surpris, et c'est de plus en plus rare, parce que maintenant, tu peux prendre l'avion, aller dans le monde entier, dans chaque aéroport, tu auras des Nike et du Vuitton et je ne sais quoi, ce sera les mêmes produits. Dans les supermarchés, c'est les mêmes produits. Les bagnoles, elles se ressemblent toutes. Enfin, tout se ressemble maintenant, quoi. Et pour être étonné, surpris ou amusé, il faut s'adresser à des professionnels qui vont être payés pour te faire rire. Hein, Ou alors des gens qui font du cinéma de façon à ce que les émotions elles puissent être amplifiées pour qu'on puisse s'y intéresser. Mais enfin, ben voilà, être surpris. Donc vous, je suppose que votre passage ici, au moins, vous aura surpris. C'est évident, bon, ça, hein, c'est pas partout comme ça, quoi. Hein, voilà, c'est pas partout pareil, quoi. Bon, là, après, est-ce que c'est suffisant que ça soit simplement pas partout pareil? Certainement pas, mais enfin bon, quand même, même si c'est un petit plaisir dans l'existence, être surpris de temps en temps, c'est pas désagréable.
Quel ressenti vous aviez eu, quoi, vous, par exemple, dans le chemin?
Ah, toi, t'as... Ben, moi, ça m'a fait rire, parce que je trouve que c'est pas tous les jours qu'on voit des œuvres comme ça, et quand on voit que, en fait, ça a des yeux, ça a une... Enfin, ça a des émotions, mais je trouvais que c'était amusant et ça faisait plus convivial et tout qu'une forêt juste avec des arbres et tout. Oui. Ça fait plus habité et plus sympa à vivre.
Mais moi, j'ai installé au début, quand j'ai mis des sculptures dans le chemin, quand j'ai décidé de faire ça, je me suis dit, j'ai imaginé quelqu'un passerait par là et qu'est-ce que ça lui ferait de voir ça, quoi, tu vois? Donc il allait être étonné, ça je le savais. Et ensuite, comme il y en avait beaucoup, d'une à l'autre, il est de plus en plus étonné. Et puis après, il se dit, ben, où ça va tout ça? Et puis après, quel est le branque au bout du chemin? Moi, ce que j'offrais, c'était ce cadeau-là, c'est-à-dire une surprise, un amusement, un intérêt, voilà, bon. Moi, je ne demande pas plus que ça. Hein. Bon, ce n'est pas pour gagner les trois ronds, etc. Non, c'était pour ça, quoi. Et que moi, j'étais capable d'offrir ça, quoi. Ouais, je ne sais pas faire grand-chose, mais enfin, ça, je sais le faire. Voilà, donc, d'en faire profiter les autres, quoi, d'une certaine façon. Et aussi, le fait que ça soit dans un chemin, ce que je disais, c'est en plein air. Donc, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'être habillé d'une certaine façon. T'es pas chez quelqu'un, tu vois, t'es sur un chemin, il est communal, voilà, c'est pour tout le monde, etc. Bon. Donc t'as une sensation, toi, en tant que spectateur, d'être beaucoup plus libre que d'habitude. Hein.
Ne serait-ce que, je sais pas, le rapport au toucher, ça, c'est des sculptures, dans un musée, tu touches jamais une
sculpture. Non, voilà, on va toucher.
Celle-ci,
ah oui,
bien
sûr.
À la toucher, je trouve. Enfin, moi, c'est mon ressenti.
Oui, mais les...
sont la petite introduction.
Ah oui, parce qu'on a écouté aussi, peut-être vous pouvez le dire, que vous avez écouté oui. L'audio guide.
Ah, l'audio guide, j'en ai parlé de ça.
Oui.
Je vais pas trop répéter, alors.
Il le dit dans l'audio guide que
on peut
toucher. Oui, oui, parce que...
On a parfois des petits objets sur certaines sculptures dans le chemin. Par exemple, il y avait des enfants qui avaient passé un bout de bâton.
Oui, oui, des mouches, etc. Oui, oui. Oui, parce que les enfants, pour comprendre, ils touchent. Tous les enfants touchent. Pour savoir ce que c'est, il faut qu'ils touchent. Alors, tu les emmènes dans un musée, ils n'ont pas le droit de toucher. Hein, c'est comme si ils n'avaient pas le droit de voir, je ne sais pas quoi, ils n'ont pas le droit de toucher. Bon, pour les adultes, ce n'est pas grave, mais pour les enfants, si on les empêche de toucher, on les frustre. Et d'ailleurs, dans le film, il y a un moment, le cinéaste, il a surpris un gosse qui jouait avec la queue d'une girafe. C'est assez marrant.
C'était une chouette découverte.
Quoi ?
C'était chouette.
C'était chouette, tant mieux.
Ouais.
Ouais, pour moi aussi, c'est un plaisir de mettre des mots sur ce que je fais et puis d'avoir aussi en face de moi un auditoire qui est... attentif, qui n'a pas de préjugés, pas beaucoup de préjugés, ce qui fait l'apanage de la jeunesse, quoi. Bon, hein, c'est... Profitez-en.
Pour découvrir l'univers de Pierre Prévost, rendez-vous sur son site pierreprévost.com. Également grâce au documentaire Épouvantail dont il parle dans cette interview de Philippe Roussy sur une musique de Thomas Wagner. Cette émission a été réalisée par Alexandra Josse pour l'association Médias Communs Occitanie. Elle est placée sous licence Creative Commons, paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Merci aux élèves et à leur professeur Sébastien Lejas, sans qui tout cela n'aurait pas été possible. Retrouvez toutes nos émissions sur ondecourte.org, la web radio du libre.